Cette interrogation sur la place du juriste dans le débat social et intellectuel est rarement envisagée sérieusement, et encore moins par les juristes, et pour cause. Le regard des juristes sur eux-mêmes paraît toujours suspect, même d'ailleurs s'ils revendiquent une posture critique. Et en effet, l'histoire est pleine de ces témoignages de juristes sur leur activité, sur leur statut, sur leurs conditions, qui consistent soit à s'en glorifier, soit au contraire à se plaindre du sort qui leur est fait. Pourtant, le propre d'une discipline est de se poser et de poser ces conditions de sérieux, de scientificité, dira-t-on, qui les met ensuite au premier rang de juges de ceux qui prétendent à l'exercice de cette discipline, pour les juristes comme pour les autres. Cela prive-t-il les juristes, plus que les autres, d'interroger aussi la manière dont ils se situent dans l'espace plus large de la réflexion intellectuelle? C'est une question que l'on peut se poser lorsque, précisément, on s'aperçoit que, notamment les travaux de sociologie, estiment plutôt que la pensée des juristes sur eux-mêmes est plutôt illégitime. Or, il me semble que l'espace de la réflexion intellectuelle est appropriable évidemment par tous et par les juristes comme les autres. Donc je pense que ce type de réflexion menée par un juriste est tout à fait légitime et même nécessaire. C'est donc ce que je tente de faire. Ce que j'ai tenté de faire d'abord dans un petit ouvrage qui est paru l'an dernier et dont le sous-titre correspond plus à la réalité de ce livre que son titre, puisque le titre est « Qu'est-ce qu'un grand juriste ?», mais le sous-titre est « Essai sur les juristes et la pensée juridique contemporaine » qui se révèle être en réalité une grande partie de ce que je traite. Donc c'est ce que j'ai fait déjà, c'est ce que je continue à faire, puisque je prépare un second ouvrage qui aura pour thème, à défaut d'avoir pour titre pour l'instant, les enjeux sociaux et politiques de la question juridique. Donc c'est un peu aussi un travail en chantier que je vous livre ce soir. Alors pour aborder cette question, la place du juriste dans les débats sociaux et intellectuels, je vais procéder en 5 points. C'est inhabituel pour les juristes, paraît-il, mais ça me semble bien plus propice à une réflexion véritable. Premier point, un constat simple. La place des juristes dans le débat intellectuel n'est pas très loin de l'inexistence. Deuxième point, un deuxième constat. Dans le débat intellectuel, le droit, lui, pas les juristes, tient une certaine place. On parle, on réfléchit sur le droit, mais ce ne sont pas les juristes qui en parlent, qui réfléchissent, ou rarement, et ce ne sont pas non plus les juristes d'ailleurs qui majoritairement font le droit. Troisième point. Évidemment, je reviendrai sur chacun de ces points. Troisième point. Une question. Faut-il envisager de manière critique ce qui fait l'objet de ces 2 premiers constats ? La réponse est, me semble-t-il, sinon je ne serais pas là, positive. Si les juristes ne sauraient évidemment pas avoir le monopole de la réflexion sur le droit, le fait qu'ils ne parlent pas du droit, en dehors de leur espace, de l'espace du droit, prive en quelque sorte la société et le débat d'une pensée que eux seuls, pourtant, peuvent développer. Le droit continue ainsi de se déployer dans l'espace public et intellectuelles à partir d'analyses qui, pour n'être ni illégitimes ni mauvaises, sont nécessairement insuffisantes. Quatrième point, une autre question qui dérive des 2 premiers constats. À quoi peut-on attribuer cette place des juristes inexistante dans le débat social et intellectuel et cette place du droit réduite mais réelle dans l'espace public que l'on ne doit que très marginalement aux juristes? La réponse, donc à quoi peut-on l'attribuer? La réponse est aux juristes eux-mêmes. Cinquième point, et dernier, le plus délicat peut-être, au-delà des constats, peut-on envisager qu'il en soit autrement, et comment cela pourrait-il se faire ? Élément de réponse, les juristes doivent se réformer eux-mêmes, d'abord quant à la conception qu'ils ont de leur travail, et par rapport à la posture qu'ils adoptent vis-à-vis de leur objet, le droit. Donc, inexistence des juristes dans le débat intellectuel, place du droit dans le débat, mais sans les juristes. Il y a certainement lieu que cela se passe autrement. Comment ? En invitant les juristes, donc, à repenser leur manière d'être. Je reprends le premier point. Le savoir juridique, pour l'essentiel, ne se donne pas à voir dans l'espace public. Sous forme de boutade, je dirais que ce sont les lois qui sont censées ne pas être ignorées, mais pas le savoir sur les lois. Il y a, dit Marc Millet, qui a fait une thèse assez intéressante sur les professeurs de droit citoyens, alors je donne le titre exact, entre ordre juridique et espace public, contribution à l'étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français, 1914-1995. Donc il y a un déficit de l'historiographie générale sur le rôle social et politique, ainsi que sur les modes d'action publique des universitaires du droit, que consacre le très faible nombre de juristes répertoriés dans la plupart des études portant sur le siècle des intellectuels. Et il ajoute en note, sans prétendre à une quelconque étude historiographique quantitative, un aperçu transversal permet tout de moins d'observer que les personnalités répertoriées dans les index des ouvrages généraux se limitent à quelques grands noms qui changent à la marge au gré de l'objet d'étude, avec pour l'essentiel, et si l'on accepte les professionnels de la politique, Georges Sel, René Cassin et Jacques Ellul pour la période antérieure à la Ve République, Georges Vedel et Maurice Duverger pour la période la plus récente, ce qui, évidemment, commence déjà aussi à dater. Le constat est sans appel, donc le juriste, comme juriste, n'est que très rarement une personnalité de l'espace public et intellectuel, puisque d'ailleurs, il est plutôt perçu comme un technicien, voire comme homme de loi et agent du pouvoir. Le juriste de la cité apparaît bien plus comme l'un de ses ouvriers que comme l'un de ses penseurs et artisans. Et Marc Millet encore, lui donne une raison simple. Il dit que les juristes, en fait, se tiennent à l'écart du rang des essayistes. Ils n'écrivent pas dans l'espace public. Alors, une petite étude qui n'est pas vraiment scientifique, parce que j'en ai commencé l'étude scientifique, mais simplement un aperçu comme ça. Si on regarde les supports principaux de cet espace public et intellectuel, j'entends les revues généralistes comme Esprit, Le Débat, Commentaire, Le Banquet. Si on regarde une radio comme France Culture, ou encore tout simplement le journal Le Monde, et qu'on regarde justement s'il y a des juristes, il faut vraiment chercher beaucoup, 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 parce qu'ils sont finalement assez rares. Il y en a, évidemment, de temps en temps, mais si on les compare aux philosophes, aux sociologues, aux historiens, aux économistes, ils sont très peu nombreux. Pour un média que j'écoute quotidiennement, comme France Culture, ou que je lis quotidiennement, comme Le Monde, je vais tomber sur un juriste une fois à peine par mois, et encore, il y a de bons mois, de meilleurs mois que d'autres, mais généralement, c'est plutôt la disette. Donc, il y a réellement une absence qui n'est absolument pas fantasmée. Je donne encore un exemple, cette fois un tout petit peu plus scientifique, puisque si on se penche aussi sur un espace intellectuel tout à fait particulier, qui est l'espace de l'université, on s'aperçoit aussi que le juriste a une place extrêmement marginale dans l'université, et particulièrement ambigu. Alors il ne fait pas de science dure, évidemment, il ne fait pas de science exacte, donc il a plutôt tendance à ne pas être considéré par un chercheur, par ceux qui font des sciences dures et des sciences exactes, bien sûr. Mais cela peut concerner tous les autres que les juristes qui font aussi des sciences humaines et sociales. Mais quand on va regarder du côté des sciences humaines et sociales, eh bien, on s'aperçoit que pour eux aussi, le juriste n'est pas un intellectuel. Il est tout simplement un technicien, voire un procédurier, ce qui évidemment est une grande insulte. Quand je regarde par exemple la présentation qui est faite du cercle de Vienne, donc qui est ce courant des années 30 qui a fait naître l'empirisme logique, eh bien, je trouve mentionné son fondateur, évidemment, qui est physicien et philosophe, Moritz Schlick, Carnap, qui est philosophe, Gödel, qui est mathématicien, ou Neurath encore, qui est sociologue. Mais pratiquement jamais le juriste Hans Kelsen, que pourtant tout le monde parmi les juristes connaît. Et lorsque, en dehors de l'espace des juristes, on présente le cercle de Vienne, auquel Kelsen a participé, jamais il n'est mentionné parmi les participants de ce cercle de Vienne. Parfois, on trouve un juriste qui est un élève de Kelsen, qui est Kaufmann, et pourtant qui est, lui, en revanche, pratiquement inconnu de la plupart des juristes. Donc, il y a, on peut le dire, une sorte d'incompréhension, voire de mécompréhension, vis-à-vis du juriste qui, décidément aussi, n'est pas un universitaire comme les autres. C'est le premier point. Pourtant, donc c'est le deuxième point, le droit n'est pas totalement absent de l'espace public intellectuel. Mais, donc, deux idées, ce ne sont pas les juristes qui en parlent, et ce ne sont pas les juristes, d'ailleurs, aussi, qui font le droit. Ce ne sont pas les juristes qui en parlent. Deux disciplines, principalement, s'affichent comme, dans l'espace public, et entre guillemets, les championnes du droit, la philosophie et la sociologie. Et quand on discute du droit dans l'espace public, c'est en vertu de ces œuvres et des pensées de ces philosophes et sociologues. Parmi les philosophes, je citerai quelques exemples connus. Évidemment, l'allemand Habermas, qui développe de plus en plus une pensée à partir du droit sur la question de l'Union européenne. Jacques Derrida, un peu avant lui, il y avait Hannah Arendt, évidemment. On peut encore aujourd'hui parler de Marcel Gauchet, qui met le droit au centre de sa réflexion. Parmi les sociologues, évidemment, on pense à Bourdieu. Plus récemment, un ouvrage a eu beaucoup, beaucoup de succès d'un sociologue qui s'appelle Bruno Latour, sur la fabrique du droit, qui a consisté pour lui à s'immerger pendant un an au Conseil d'État. Il en a produit un ouvrage qui s'appelle « La fabrique du droit, une ethnographie du Conseil d'État », et qui a eu un très, très, très grand succès. Et c'est intéressant parce qu'il a fait connaître quelque chose du droit, et pour autant, il me semble que beaucoup de juristes, en lisant ce livre, « La fabrique du droit », à la fin, n'apprennent pas véritablement grand-chose. Et c'est ça qui est intéressant. Ils n'apprennent pas grand-chose, mais ce sont d'autres qu'eux qui apprennent quelque chose aux autres sur le droit. Donc, c'est très intéressant de s'apercevoir qu'il y a un objet droit comme ça qui est mobilisé par les anthropologues et qui ne revêt absolument pas le même sens que le nôtre. Mais ce qui est intéressant aussi, alors je pense qu'on doit nous s'interroger là-dessus, parce que c'est important de comprendre comment les autres définissent le droit, d'un cloisonnement disciplinaire très important aujourd'hui et dont on commence à avoir tous les effets entre guillemets négatifs, c'est que chaque discipline, pour se constituer de manière autonome vis-à-vis des autres, alors à la fois pour être reconnue comme discipline, pour obtenir des crédits, pour etc., etc., a été contrainte en quelque sorte de se définir en exclusion des autres. Donc chaque discipline définit son objet indépendamment des autres disciplines. Et il n'est pas du tout exigé que l'objet, quand bien même il serait commun dans sa dénomination, puisque c'est ça dont il s'agit, soit aussi commun dans le champ empirique délimité par cet objet. Donc chacun fait son petit truc de son côté, chacun définit le droit exactement de la manière dont il le souhaite, et chacun cherche ainsi des choses totalement différentes. Et ce n'est pas la même chose que d'envisager un même objet de plusieurs points de vue. Ce n'est pas la même chose de dire que, il y a un objet qui a plusieurs facettes. Ce n'est pas du tout pareil. Et un même objet, en effet, peut être envisagé par un géographe, un philosophe, un juriste, ou même un physicien. Et j'ai invité un physicien, d'ailleurs, bientôt à venir au séminaire sur les usages du droit pour nous parler du droit. Ce n'est pas la même chose, hein, d'envisager un même objet comme ayant plusieurs facettes, comme une sorte de fait social total, comme diraient certains sociologues, ou anthropologues même, et d'envisager qu'un même objet puisse être défini totalement différemment, c'est-à-dire, en fait, délimite un espace empirique totalement différent. Donc, en tout cas, quand on parle du droit, c'est souvent sans les juristes. Mais je voudrais dire aussi que, je vais essayer d'être plus rapide, que ce ne sont pas souvent les juristes qui font le droit. La césure entre le droit et la politique, aujourd'hui, est si nette qu'il n'est pas présenté comme contestable que la production des règles de droit appartient au monde de la politique exclusivement. Ça est présenté comme non contestable. Alors, en revanche, que la politique et le droit, c'est une petite parenthèse, soient soumis aux supposées lois de l'économie ne paraît pas, en revanche, poser de véritables difficultés. Et on note au passage que la notion de loi de l'économie, d'ailleurs, impliquerait que, justement, elle peut s'imposer avec plus de raison et de force que le droit lui-même, puisqu'elle serait en quelque sorte naturelle, contrairement aux lois positives des hommes. Mais c'est une autre question. En attendant, la césure, donc, entre droit et politique, explique peut-être plus aujourd'hui qu'auparavant que les juristes soient plutôt éloignés des lieux privilégiés du droit. Le Parlement, pour l'essentiel, où finalement il y a assez peu de juristes, même s'il y a un petit retour, semble-t-il. Les ministères, sensiblement, où les textes se préparent, mais où, paradoxalement, il y a assez peu de juristes. Assez peu de juristes, quand on fait la sociologie des ministères. Juristes, de toute façon, dont les politiques se méfient considérablement. Lorsque le droit se fait concrètement, il n'est pas l'affaire des juristes. Et je voudrais juste lever une ambiguïté. Lorsque certaines réformes sont envisagées, on constitue souvent des comités de sages, de réflexion, hein, qui vont plancher sur une réforme à envisager. Alors là, on trouve pas mal de juristes. On trouve pas mal de juristes, en effet. Mais il me semble que cette présence des juristes est plus souvent une caution ou un alibi qu'autre chose. Faut-il envisager de manière critique donc cette place des juristes inexistante et cette manière de considérer le droit dans l'espace public? La réponse, évidemment, est positive, je vous l'ai déjà dit. La manière dont les juristes se pensent ne suit pas nécessairement la manière dont le droit produit un sens. Je m'explique. En France, on peut constater un certain anachronisme des juristes, une sorte de démarche à contre-temps, notamment des professeurs de droit. Si on regarde un peu ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est assez intéressant parce que tout le début du XXe siècle qui suivait la fin du XIXe, les juristes ont été beaucoup à la recherche du social. Ils ont beaucoup frayé à ce moment-là avec la sociologie, l'économie, etc. Et puis, au moment difficile de l'histoire et de l'histoire du droit, un droit qui se fait, fasciste, un droit qui se fait nazi, etc., eh bien, les juristes s'enlisent à ce moment-là dans une sorte de positivisme formel qui finit plutôt par l'emporter, même si cela produit, vers la fin du XXe siècle, plutôt une sorte de pluralisme au sens où il y a des juristes très positivistes, des juristes un peu moins positivistes, mais donc, je dirais quand même qu'il y a une grosse dominante. Emporté dans des débats sur le sens de ce qui fait société Et alors que sans conteste, il me semble, le droit, ses règles, ses formes, sa force contribuent à faire ou à défaire le lien social, la société donc se trouve privée des juristes, seuls titulaires d'un savoir spécifique sur le droit. Et je le répète, vouloir qu'il en soit autrement n'est pas la même chose que de rechercher une toute-puissance des juristes. C'est surtout chercher à penser mieux un droit comme produisant du lien social, et c'est à mon avis un enjeu absolument considérable. Quatrième point, donc. Je l'ai dit tout à l'heure, cette situation est attribuable. Il en résulte nécessairement un juriste technicien. Ce scientisme est évidemment préjudiciable à la connaissance véritable du droit, à travers l'ensemble de ses manifestations normatives. Alors que le droit est apparu historiquement comme une alternative à la force brutale arbitraire, par l'instauration d'une autre force, certes, mais qui ne doit avoir d'autres arbitraires que celui d'organiser la pacification sociale, le lien social, la cohésion sociale, dirons-nous aujourd'hui, la justice. Ces notions, pacification sociale, cohésion sociale, justice, se discutent précisément. Mais la question est de savoir pourquoi les juristes ne s'autorisent pas à discuter de ces notions-là, alors qu'elles sont la raison d'être du droit, mais pas du droit seulement dans son ensemble. Elles sont la raison d'être des normes, de toutes les normes. Il est absolument clair que le paradigme dominant la pensée juridique contemporaine sépare le raisonnement sur le droit du raisonnement sur la justice, le raisonnement sur le droit du raisonnement sur la société. À partir du moment où l'on a admis que le droit positif n'était pas équivalent à la justice, ce qui est une évidence, on a séparé les réflexions au lieu de les joindre plus encore. À partir du moment où l'on a aperçu la dimension bourgeoise du droit, on a pris acte de ce que les juristes étaient nécessairement les moins à même de parler du social. Voilà comment on peut peu ou prou identifier les éléments qui donnent naissance au positivisme scientifique contemporain des juristes. La pensée juridique contemporaine subit l'effet de ce sont les mauvaises conséquences qui ont été tirées de ces deux prises de conscience. Que le droit positif et la justice n'étaient pas pareils, et que le droit était un système de, on va dire, de reproduction et d'entretien de la bourgeoisie. Au lieu de rejoindre les réflexions, plus que jamais, donc, on feint d'ignorer les conséquences du système juridique et surtout, on tend à ne pas élaborer de pensée critique, car la connaissance du droit, qui n'est pas considérée comme celle de la justice ou de la société, ne permet pas de porter de jugement en termes de justice et de valeur sociale. Alors, je prends quand même un exemple important, à mon avis, qui est le plus caricatural, mais je pense assez parlant. Si je prends une décision du Conseil constitutionnel sur des questions fiscales, sur des lois fiscales, ou même les décisions sur les lois de finances, il faut, pour comprendre ces décisions, évidemment, mettre en lien les textes mêmes qui sont examinés par le Conseil constitutionnel, donc la loi de finances ou une nouvelle loi en matière de fiscalité, comme c'est le cas encore très récemment, et ce que dit le Conseil. Il peut en résulter une appréciation simple, comme celle qui se retrouve dans le monde d'aujourd'hui sur le Conseil constitutionnel qui censure une partie des dispositions sur un nouveau dispositif fiscal qui consistait à permettre une garde à vue prolongée pour des fraudeurs fiscaux. C'était jusqu'à 96 heures, il me semble, et ce dispositif a été censuré. Donc voilà, il est assez simple de dire ça. Et puis, il y a des analyses plus techniques auxquelles se livrent souvent un certain nombre de juristes ou économistes. Et puis, quand on y regarde un petit peu plus près, justement, on s'aperçoit, si on met en lien les différentes décisions, et si on regarde une décision en particulier, que derrière un dispositif d'apparence technique se cache, entre guillemets, une notion, une conception particulière de la justice. Une conception particulière de la justice. Mais qui n'est pas du tout apparente à première vue. Et qui peut même parfois être extrêmement surprenante. Ainsi, si on fait une vraie analyse de la décision rendue sur la loi de finances 2013, donc l'an dernier, eh bien, on s'aperçoit que la notion de justice qui est à l'œuvre dans cette décision n'est pas une notion de justice équité, absolument pas. C'est une notion de justice, alors je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais finalement une notion de justice qui aboutit à une inéquité réelle entre les différents contribuables sous couvert d'un principe qui est le principe de l'impôt non confiscatoire. Et en réalité, pour aboutir à ce genre de conclusion, eh bien, il faut beaucoup lire, beaucoup travailler les décisions. Et pour cela, il faut avoir des compétences, et des compétences proprement juridiques. Le problème, donc, c'est que si le juriste ne dit pas ça, ne dit pas, eh bien voilà quelle est la notion de justice impliquée par la décision du Conseil constitutionnel, que l'on peut trouver, alors, pour être discuté après, mais que l'on peut trouver à travers l'ensemble des énoncés. Eh bien, personne d'autre ne le dira. Personne. Parce que personne d'autre n'a la compétence pour le trouver, pour le dévoiler. Donc, si le juriste ne le fait pas, personne d'autre ne le fait. Personne d'autre. Donc, il me semble là que le juriste, tout simplement, ne joue pas son rôle. Parce que il laisse un espace vide, béant, à une réflexion, pourtant, qui aurait considérablement besoin de lui. Je vais essayer de ne pas garder la parole trop longtemps, et donc je vais passer, je pense, très vite au dernier point. Peut-on envisager, donc, qu'il en soit autrement? Comment cela pourrait-il se faire? Il y a peu de doutes sur le fait que la formation des juristes repose sur une série de choix qui en disent long sur la manière dont les juristes perçoivent leur savoir. On peut ainsi identifier deux manières de concevoir la maîtrise de la discipline juridique. L'une est spécifiquement technique, donc tournée autour de la question des règles, des procédés juridiques, souvent formalisés, pas toujours, mais souvent par ce fameux syllogisme auquel on tend à réduire le juriste. Une autre approche, plus totale, on va dire, ne repose pas sur une fragmentation de l'espace occupé par le droit, mais le considère nécessairement dans sa dimension sociale. Si on estime que la capacité du juriste à situer la connaissance du droit dans le contexte plus général du monde fait partie de son travail, alors l'enseignement du droit comprend quelques objectifs identifiables. Faire connaître, bien sûr, les règles, mais les faire connaître pas seulement du point de vue des moyens, mais aussi des points de vue des fins, du point de vue des fins du droit. Apprendre à évaluer aussi, en aidant au développement de l'esprit critique, pas seulement fondé sur des éléments techniques juridiques, mais aussi en fonction de la manière de penser le social et la justice. Introduire à l'imagination aussi, à l'imagination des moyens et des fins du droit. Il ne s'agit pas seulement de considérer que les juristes doivent avoir une bonne culture générale, ou de dire que les enseignants des facultés de droit doivent encourager leurs étudiants à élargir leur culture, notamment par la lecture, quand ils ne doivent pas eux-mêmes élargir leur propre culture. Non, il s'agit de considérer que les juristes doivent acquérir des connaissances pointues sur la chose du droit et sur les choses du monde du droit. Il s'agit de mettre le droit en situation, pour que le juriste ne soit pas prisonnier des caractéristiques techniques de son objet. Il doit le comparer à d'autres objets. Et pour ne pas oublier la dimension sociale du droit, il doit minimalement connaître d'autres objets que le sien. La formation des juristes doit donc comprendre, dès son commencement, un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas spécifiquement techniques. L'introduire, évidemment, véritablement aux sciences humaines et sociales, faire du droit comparé, de l'histoire du droit, de la philosophie, de la sociologie, de la théorie, du droit, évidemment, pour penser véritablement le droit. Vous savez, souvent on dit mais on manque de temps, on manque d'argent, etc., etc. Il faut d'abord former les étudiants pour ce pour quoi ils sont faits. Sous-entendu, de simples employés du droit, de simples guichetiers du droit. Mais c'est intéressant parce que finalement, le discours est dominant en la matière, qui empêche d'introduire de manière large ce type d'enseignement. Et j'assume totalement le fait que pour moi, ce type d'enseignement se ferait, entre guillemets, au détriment, en termes de volume horaire, d'autres enseignements plus techniques. Il n'y a aucune difficulté, mais vous savez, une fois qu'on sait lire des arrêts, une fois que on sait lire une règle de droit, mais tout est partout, Internet, les codes, etc. Pas besoin de grands cours pour ça, il n'y a pas besoin de grands magistraux pour ça, c'est absurde, c'est une perte de temps pour tout le monde, pour tout le monde. Mais tout ce qui n'est pas dans les codes, tout ce qui n'est pas dans les arrêts, c'est tout le reste qui n'est absolument pas enseigné, nulle part, jamais, presque pas, très peu en tout cas. Et à cela, donc, une opposition, une résistance, des résistances extrêmement fortes, et pourtant quand on entend les étudiants à la sortie de la faculté de droit, mais que disent-ils? Ils ne disent pas ça, évidemment, mais ils disent, mais ce qu'on a fait à la faculté de droit, mais c'est vraiment pas du tout ce qu'on fait après. Un bon juge, tout ce qui fait qu'on va être un bon avocat, etc., etc. Et tout ça, ça n'est pas enseigné à la faculté de droit. En tout cas, les outils ne sont pas donnés, qui, je pense, devraient être donnés. Parce que ce qu'on doit faire dans la formation, c'est dire quelque chose de plus. C'est dire quelque chose de plus que ce qu'il y a dans un code, dire quelque chose de plus que ce qu'il y a dans un arrêt. Sinon, nous ne servons à rien, ou alors nous ne sommes que des passeurs qui, dans les bonnes périodes, peuvent nous glorifier, mais dans les mauvaises périodes, eh bien, au contraire, plutôt donner une image de nous qui n'est pas très reluisante. Les facultés de droit, je le pense, ont construit un piège qui tend à se refermer sur elles, en envisageant le droit, justement, comme une accumulation de décisions. Elles construisent une formation autour de blocs thématiques de décisions, dont on considère de manière très accessoire qu'elles organisent et donc tendent à faire du lien social, quels que soient, évidemment, les domaines en question. Alors, en même temps, en dehors du fait que c'est un problème pour la formation des juristes, c'est un problème pour les universitaires juristes eux-mêmes qui se délégitiment, qui finalement dévalorisent leur travail. Et en effet, leur travail n'est pas une plus-value par le droit. Et finalement, sans le dire, presque tout le monde le sait. Presque tout le monde le sait. Et donc, il n'est pas utile, en effet, de faire appel aux juristes dans l'espace public. Mais que va-t-il nous dire ? Hein, que va-t-il nous dire, sinon annoncer, voilà, une règle de droit, un arrêt juste qui vient d'être rendu par un tribunal administratif, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, etc., etc. Les juristes, sous couvert, puisque c'est ça encore, sous couvert d'avoir une pensée positiviste neutre. Je ne suis pas là pour juger, certainement pas, c'est le credo du professeur de droit. Eh bien, en réalité, ne font toujours et tout le temps que de la morale, et plutôt que de le nier, ils devraient en prendre la responsabilité, parce que véhiculer sans autre forme de procès les normes, donc les conduit eux-mêmes à incarner ces normes. Et précisément, je pense que ce n'est pas le rôle du juriste. Si le droit transcende la morale, nous dit-on souvent, oui, mais il porte la sienne propre, il véhicule, il rejette des valeurs qui font sens. Une description neutre nécessite forcément de révéler la morale du droit, de discuter toujours les principes qui sont à l'œuvre et qui font sens. Donc, on peut dire qu'il faut inviter, en quelque sorte, les facultés de droit à faire dire sa propre psychanalyse à travers le sens essayer finalement de trouver le signe de ce que ils ont donc un rôle à jouer dans l'espace public intellectuel. Voilà, je vous remercie.